Bonjour et bienvenue sur le balado Jason Pédagogie Numérique.
La fin de l'année académique pointe le bout de son nez, la saison des conférences débute et c'est sûr qu'on va avoir le cerveau plein de bonnes idées pour la préparation de nos cours pour la session d'automne. Pour ce 11e épisode qui est notre deuxième partie sur le design d'expérience d'apprentissage, je jase avec Jean-Luc Trussard, enseignant en intégration multimédia au cégep régional de Lanaudière à l'Assomption, qui a une approche très juste de comment monter un cours en prenant bien sûr en compte les besoins de l'apprenant dans son parcours de réussite éducative. Je ne vous en dis pas plus et bonne écoute! Aujourd'hui, on va parler de design d'expérience d'apprentissage et on a un petit rituel. On aime poser la question avec Alexandre à nos invités de comment ils sont devenus technopédagogues ou comment ils en sont arrivés à la technopédagogie. Moi, pour un petit exemple, pour ma part, je l'ai vraiment découvert la technopédagogie à Hong Kong en 2010. Je suis arrivée dans une classe, j'enseignais les sciences humaines, ils avaient tous un MacBook Pro, ils utilisaient Google Sites comme portfolio. Moi, je suis arrivée là, j'ai dit « qu'est-ce que je vais faire là ?» Mais j'ai foncé dans le tas, là, et j'ai appris sur le tas, mais ça a été une expérience formidable où je me sentais vraiment en décalage avec ce qui était attendu des enseignants. Puis j'ai découvert une nouvelle manière d'enseigner, mais je dirais d'adapter au mieux mes pratiques pédagogiques. Toi, comment t'en es arrivé là? Comment t'es devenu technopédagogue ou tu t'es intéressé à tout ça?
Ben bonjour, Jean-Luc Trussard, je suis une bébite du monde collégial. Je suis devenu technopédagogue malgré moi ou c'était je suis tombé dedans quand j'étais petit, je ne sais pas trop là. Parce que ma carrière c'est comme des développer en trois temps. Tout a commencé quand j'ai étudié en enseignement au secondaire de l'univers social. L'univers social qui est une discipline un peu inventée mais qui veut dire histoire, géographie, économie. Ouais. Et autres, mon contemporain maintenant. Dès le départ, on s'est dit qu'avec un de mes collègues, qu'on était peut-être pas assez bon en étant de jeunes enseignants, mais qu'on avait une idée. On tripait sur les jeux de simulation à la civilisation où que chaque personne a à construire un empire autour
d'une civilisation. Est-ce que c'est un peu comme Minecraft ou tu sais un peu l'équivalent
Non, on est plus dans Civilization qui est un jeu de vraiment de simulation de création d'empire ou de développement de civilisation avec des découvertes technologiques. Puis on se disait, hey, ça serait le fun de pouvoir faire vivre ça à nos étudiants, nos élèves dans le temps au secondaire. Et pour ça, on a commencé à développer, voir comment on pourrait adapter notre planification de cours en lien avec ça. Et là, vu qu'on était des jeunes enseignants, on s'est dit, on va partir un site web, on va publier nos contenus, puis on va avoir une rétroaction de la part des enseignants. Ce que ça a fait plutôt, c'est que les profs étaient très contents d'avoir notre contenu, de pouvoir en profiter en classe, mais on est comme devenus, malgré nous, des experts en design pédagogique, en intégrant des technologies, juste parce que nous, on voulait valider un petit peu ce qu'on faisait.
Oui.
Donc, ce qui m'a amené à aller enseigner pendant 5 ans, au secondaire, en histoire, géographie, toute autre matière connexe comme anglais et chimie. Donc, pour faire des tâches en histoire, géographie au secondaire, on a vraiment besoin d'être polyvalent. Puis je pense que cette polyvalence-là m'a amené vraiment à teinter le reste de ma carrière aussi. Donc, en lien avec la publication, dans le fond, sur un site, là, on était dans les années 2005 à 2010, là. Donc, on était vraiment dans du web 1.0. Facebook commençait, là. Donc, on n'avait pas beaucoup d'interactions dans nos publications.
Oui.
Et ce qui m'a amené à travailler par la suite, en même temps que j'enseignais, à m'impliquer au sein de mon association professionnelle, la CEUS, qui existe toujours pour les enseignants.
Comment t'appelles ça? Comment tu dis ça?
La CEUS, l'Association québécoise en enseignement de l'univers social.
Okay.
Donc, c'était vraiment une association d'enseignants où dans le fond, ça venait avec le renouveau des programmes d'études par compétences au secondaire, puis on essayait de promouvoir, dans le fond, ces éléments-là. Et en même temps, j'ai commencé à collaborer plutôt en premier, puis après ça, travailler avec le récit de l'univers social, parce que en tant que prof d'histoire, je voyais qu'il était en train de développer un logiciel de ligne du temps. Donc, ligne du temps, d'habitude, on faisait ça papier, puis les étudiants, c'était pas...
Les fameuses prises chronologiques, ouais, c'est ça?
Prises chronologiques. Donc, la ligne du temps nous permettait, avec une version en ligne, ben pas en ligne, en logiciel en premier, ben ce que ça nous permettait, c'était vraiment de travailler puis d'amener, d'intégrer l'ordinateur aux étudiants et de mieux organiser l'ensemble des médias qu'on pouvait placer sur une ligne du temps, parce que sur une feuille de papier, on est rapidement limité là, au nombre d'événements chronologiques qu'on peut placer, puis là, si on veut rajouter des thématiques ou autre. Donc, je me suis impliqué dans le développement de ce logiciel-là. J'ai continué à enseigner tout ça au secondaire, ce qui m'a amené après ça en disant, ben je peux peut-être en faire un petit peu plus. J'ai appliqué au collégial en tant que conseiller techno-pédagogique de mon expérience d'enseignement et de développement de logiciels au secondaire. Je pense que la ligne du temps est fonctionnelle encore, donc on s'est pas trop gouré.
C'est vrai? Oui, je sais qu'il y a pas mal d'applications, mais cette ligne du temps, c'était quoi le logiciel que vous aviez utilisé? Il existe encore?
Oui, ben, de mémoire, il existe encore. Il faudrait que je retourne aller voir sur le service du récit au secondaire.
Mm-hmm. Ouais,
mais
ouais.
La seule limitation, c'est que c'était développé en Flex, qui est une technologie Flash. Donc, oui, Flash oui. Avec les mobiles, et vu que Flash est mort, ben là... Il y a peut-être un réalignement, mais au moins, je sais qu'aux dernières nouvelles, là, il fonctionnait encore, puis il y avait peut-être une volonté de le mettre en ligne, mais j'ai pas suivi de développement, vu que ça fait comme 10 ans que je suis plus...
mais ça peut être très intéressant, je ferai un coup d'œil.
Donc, pour le secondaire, c'est certain, je sais ont contribué à développer beaucoup d'outils hyper pertinents pour les enseignants au secondaire, donc ça... pour l'intégration des TIC, c'est un beau modèle.
Ben c'est ça, c'est fascinant, excuse-moi, mais c'est fascinant de voir en fait toute cette énergie qu'il y a beaucoup au niveau du secondaire, ben, au niveau des commissions scolaires. Il y a beaucoup d'expériences qui sont faites, ou beaucoup d'ailleurs de technopédagogues viennent de là, parce qu'il y a eu des idées. Toi, tu parlais de 2005 à 2010, d'avoir rebondi sur une idée d'utiliser Civilisation pour dynamiser tes cours. C'était quoi les termes qu'on utilisait quand il y avait des enseignants qui allait tirer comme ça des nouvelles technologies ou des pratiques pédagogiques innovantes, parce que ça a toujours existé, hein, on va pas se leurrer. Ouais.
C'est là que, quand j'étais au secondaire, on parlait davantage des TIC, et quand je suis rentré au collégial, ça m'achalait aussi, parce que ça a teinté toute ma carrière, mon passage de conseiller pédagogique, en disant, ben les TIC, c'est un outil. Ouais. Avec un marteau, je peux construire quelque chose, mais je peux faire mal à quelqu'un aussi. Ça reste un outil. Et là, on était dans l'arrivée des Facebook et autres, que ça devenait dangereux là. Hey, on peut se retrouver sur Internet, puis les médias sociaux étaient vraiment vus comme dangereux.
Ouais, effectivement.
En enseignement, on assistait à l'arrivée imposée des TBI, donc des tableaux blancs interactifs, que personnellement, je me suis toujours battu contre, parce que je voyais pas la possibilité.
La plus-value pédagogique, ou la possibilité d'utilisation plutôt?
Les deux, en univers social, c'était assez limité. Et quand je suis arrivé comme conseiller pédagogique, j'ai été responsable à la fois des technologies et des programmes d'études. Et moi, j'ai toujours cherché à travailler, à intégrer la technologie dans la pédagogie, non l'inverse. Donc, c'est pas parce que j'ai un crayon rouge qu'il faut absolument que je développe une activité d'évaluation ou d'apprentissage là-dessus. Je n'enseignerai pas autour de mon crayon. Je vais enseigner à partir de mon contenu. Ouais. Et ça, ben, on voyait pas, puis on l'a analysé au collège, au cégep de Nanodière, où j'étais à l'Assomption, avec les enseignants. Je dis, ben, la première chose, on va aller voir qu'est-ce qui est possible, parce que moi, j'ai ma vision univers social, mais on va aller voir au collégial qu'est-ce qui est possible. Et avec des profs d'anglais, des profs de sciences, des profs d'administration, on a regardé ce qui était possible avec le tableau interactif. Puis on s'est rendu compte rapidement que malheureusement, pour notre utilisation chez nous, ça ressemblait davantage à un projecteur.
Oui.
Il pouvait être tactile, mais on voyait ce qu'on avait dans nos poches, ou qu'on pouvait déjà contrôler les projecteurs à partir d'une tablette ou d'un téléphone, et on voyait pas tant la plus-value. Puis l'histoire, la courte histoire, nous a comme donné raison un petit peu, là, parce que ce qu'on voit actuellement, c'est que Oui, il y a des projecteurs interactifs, mais le niveau tactile est beaucoup plus intéressant pour l'utilisateur qui va utiliser sa tablette ou son téléphone et que les autres vont pouvoir voir. Mais être de dos à ma classe, puis enseigner, à part en mathématiques que j'ai vu qu'il y avait des beaux résultats, c'est pas gagnant pour tout le monde. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça que, dans le fond, c'est ça. Ça a teinté notre vision d'intégration des technologies. On a parlé, on a implanté des decks avec portables pour voir, ben, on avait des profs qui étaient déjà en laboratoire. Après ça, on a passé avec des portables. Et la grande question, justement, qui arrivait, c'est, oui, mais ça change quoi?
Oui.
Si on enseigne déjà en laboratoire, enseigner un cours d'Excel dans un labo ou d'enseigner sur un portable, qu'est-ce que ça change? Donc, il a fallu réfléchir ensemble, voir ce qu'on pouvait faire.
Mais Jean-Luc, justement, tu parles de laboratoire. Tu sais, juste pour clarifier un peu, c'est quand tu parlais de laboratoire, en tout cas en cégep, c'est une salle où il va y avoir en fait tous les outils informatiques qui vont permettre aux étudiants d'accéder à un ordinateur, etc. Ouais. D'accord. Donc, un laboratoire informatique. OK.
Exact, c'est ça. Okay. Donc, c'est comme on a des laboratoires informatiques chez nous, puis on a ce qu'on appelle des classes sèches, là. Donc des classes qui sont bien ordinaires, puis là, on est même rendu avec des classes humides parce que certaines classes ont besoin d'eau. Donc, exactement. Il y a une progression des besoins pédagogiques, puis on se retrouve avec cette bonne-là. Donc, comme conseiller pédagogique, c'est ça. J'ai intégré beaucoup de technologies. On a essayé de réfléchir aussi à quoi que ça servait les médias sociaux en enseignement au début. Donc, on a publié un guide à l'aide de là, je sais pas à quel moment on se parle, mais la POP, pas la POP, mais la BTE nous avait aidé à publier un guide sur l'intégration pédagogique des médias sociaux pour supporter les enseignants qui se demandaient est-ce que c'était dangereux ou il y avait vraiment de quoi faire avec ça. Et tout au long de ce chemin-là, ben j'ai accompagné des programmes aussi, soit dans de l'évaluation de programmes, soit dans de l'implantation de programmes ou dans de l'actualisation. Donc, à terme, après mes 10 ans, je m'occupais de 8 ou 9 programmes techniques en plus de l'intégration des technologies. Et c'est là que ça me faisait vraiment triper parce que je pouvais faire à la fois du développement institutionnel, à la fois de l'intégration des technologies, mais pertinente, hein. Parce que c'était pas juste un outil à la mode qu'on essayait d'intégrer, mais c'était dire, ben, dans ce programme-là, je prends l'exemple de design d'intérieur, parlez-leur pas d'intégration des technologies, ils font juste ça, non?
Oui.
En comptabilité, en assurance, même principe. Donc, la technopédagogie, l'éthique tendait, moi, ce que je voyais, c'est qu'ils tendaient à disparaître.
Oui.
À terme, en disant, ben, ça reste des outils. Et là, on peut travailler avec ceux-ci, mais ça ne prend pas toute la place dans la classe. Hein. Mm-hmm. C'est vraiment, ça va venir supporter l'enseignant, puis ça ne le remplace pas. Un petit peu comme on a vu dans les années 80-90 avec l'audiovisuel, là, qu'on pensait que la télé allait remplacer les profs, qu'on pourrait partir un VHS.
On n'en est pas. C'est ça, on n'en est pas à la première vague de remplacement des profs et des questionnements qu'en fait les enseignants sont toujours posés. Est-ce que ça va nous remplacer? Mais est-ce que justement là, tu positionnes en fait la technologie comme un outil et pas comme une expérience en soi? Mais d'où justement cette idée de design d'expérience d'apprentissage? Qu'est-ce que c'est exactement? Et justement, en quoi ça va nous permettre de comprendre ou de percevoir la technologie plus comme un outil et même plus comme le centre en fait des intérêts qu'on a actuellement, ou du moins on commence à être dépassé par ça. Mais la technologie, ça reste beaucoup au centre, d'où le terme technopédagogie qui tend maintenant à un peu se transformer en pédagogie numérique. Donc on comprend que c'est la pédagogie en fait la question. Alors tu vas pouvoir nous parler en fait de ça, le design d'expérience d'apprentissage.
Ouais, ben comme beaucoup de termes en éducation, je dirais qu'actuellement je le vois comme un buzzword, là. Un mot valise qui va nous permettre d'intégrer plusieurs concepts qu'on faisait déjà. Donc, un petit peu comme la classe inversée, on n'a pas commencé avec la classe inversée en disant « Ah, c'est magique, puis ça a changé ». C'est des pratiques que ça fait longtemps qu'on faisait puis qu'on a intégré. L'expérience d'apprentissage, ben, je le vois actuellement avec mes étudiants parce que j'enseigne le UX Donc, l'expérience utilisateur auprès de mes étudiants, parce que là, j'ai lâché la technopédagogie. Ben, pas lâché, mais en développant des programmes, j'ai été appelé à développer le programme de technique d'intégration multimédia, où que par la suite, j'ai appliqué parce que j'avais ma firme de développement, d'accompagnement pédagogique et de, dans le fond, de design d'expérience d'apprentissage, justement, que j'ai développé en même temps que j'étais conseiller pédagogique. J'avais besoin de mettre un petit peu plus la main à la pâte. Et là, ben le UX, on le voit beaucoup en marketing, on le voit beaucoup en design de logiciels. Et là, on commence à voir en éducation. Mais dans le fond, pour l'instant, là, si on l'applique vraiment à l'éducation, c'est comme un mot, un concept qui va nous permettre d'arriver vers un petit peu plus une approche programme comme était proposé dans les années 60 quand les collèges ont été fondés. Donc, pour moi, l'UX, c'est l'expérience utilisateur, c'est de partir des besoins des utilisateurs. Donc, on parle de design centré sur l'utilisateur, ce sont des méthodes pour y arriver et dans le fond, c'est de comprendre qui sont nos utilisateurs, dans notre cas, c'est nos étudiants. Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Qu'est-ce qu'ils veulent? Et comment je peux les faire progresser? Donc, dans les années 80-90, on parlait beaucoup d'approche programme. Dans les cégeps, ça a plus ou moins élevé parce qu'on sait pas trop quoi faire avec ça. On a mis des comités de programme, mais qui sont des comités de concertation qui sont parfois fonctionnels. Souvent, on sait pas trop quoi faire dans ces rencontres-là. Mais, et c'est là que comme conseiller pédagogique, à la fin, j'ai essayé de mobiliser mon collège et même le réseau à partir de ça, en disant, ben on peut intégrer des principes de l'expérience utilisateur à la formation de nos étudiants. Un étudiant, ça ne s'inscrit pas dans un cours au cégep, mais ça s'inscrit vraiment dans un programme d'études. Et ce programme-là, ben c'est pas juste une collection de cours qui sont parfois attachés ensemble ou pas. Il faut qu'il y ait une, j'aime pas le mot, là, mais une synergie, mais un lien entre ceux-ci et une harmonisation pour pas que l'étudiant revoie le même contenu ou surtout qu'il soit capable de voir le lien entre les éléments. Donc, c'est là que comme conseiller pédagogique, j'ai été appelé à commencer à réfléchir à des tableaux de bord de réussite avec les répondants à la réussite. On a réfléchi à la collégialité pour essayer de travailler puis ensemble aller plus loin et à intégrer la conception centrée sur l'utilisateur parce que quand on refait une évaluation de programme, quand on développe un nouveau programme, faut partir de qu'est-ce que le marché du travail a besoin dans un programme technique et surtout qu'est-ce que les étudiants, jusqu'où on veut les amener. Et là, c'est en partant des besoins et en partant des objectifs ministériels qu'on est capable de designer des cours, de scénariser ou de planifier des cours. Mais ce qui est intéressant dans le volet de UX, c'est de ramener le volet de l'expérience. L'expérience, ça peut être un gâteau. Mon gâteau, il peut répondre à avoir toutes les structures techniques qu'un bon cours devrait avoir. Mais s'il goûte pas bon, l'expérience, c'est pas plus fun. Donc, il faut arriver à ce que nos cours intéressent nos étudiants. Puis je le vois, moi, au jour le jour, dire, ben, ça peut être plate des fois, là, le contenu qu'on présente au collégial. Ben, comment intéresser les étudiants? Comment les embarquer pour qu'ils soient intéressés à pousser plus loin, à approfondir la matière, ben c'est en créant des expériences d'apprentissage qui vont être intéressantes puis le fun pour eux autres.
Mais quand tu parles d'expérience, donc c'est vraiment super intéressant ce que tu dis parce que effectivement on parle beaucoup du UX en marketing, c'est mieux connaître son client, développer des expériences. Et j'avais vu une émission sur Walmart justement et le UX et comment aux États-Unis comment ils développaient ou comment ils avaient analysé, évalué puis développé en fait toute l'expérience d'aller faire son magasinage. La question que je me pose, c'est que justement tu as dit des choses qui sont très intéressantes par rapport à la scénarisation. Moi, je l'entendais vraiment sur, ils vont pas nous apprendre. Peut-être que à l'extérieur, ils le savaient pas, mais nous enseignants, ce qu'on faisait déjà, c'est qu'on scénarisait nos cours, et on scénarisait nos cours au mieux pour développer en fait les compétences que les étudiants devraient acquérir pour pouvoir accéder à une profession. Donc, l'enseignant scénarise, puis dans cette scénarisation, le nec plus ultra de la scénarisation, c'est que l'étudiant rentre dans une sorte de parcours. C'est vraiment un parcours où il y a un objectif d'apprentissage, puis il y a des étapes de ces objectifs d'apprentissage qui vont faire que, tu sais, c'est comme un jeu vidéo où tu vas faire ta première plateforme, puis tu arrives à la fin, tu valides, tu arrives au checkpoint et puis tu continues. Et à la fin, mais tu arrives avec ce qu'on appelait en fait les critères de succès. Tu sais, j'ai eu tel ou tel critère de succès. Puis, grâce à ces critères de succès, j'ai validé tel pourcentage de mon objectif d'apprentissage. Puis, il m'en reste quelques-uns, etc. Donc, est-ce que, en soi, moi, ça, j'appelle ça de la scénarisation. Vraiment, c'est scénariser un cours. Qu'est-ce que l'expérience d'apprentissage, c'est, quand je parle à un enseignant et je lui dis expérience d'apprentissage, est-ce qu'il y a une certaine évaluation, en fait, en amont de toutes les compétences que l'étudiant devrait développer, puis scénariser ça dans sa session de manière à ce qu'il y ait un avant et un après. Mais comment je peux aller vraiment être consciente aussi de ses besoins? Tu sais, ça paraît quelque chose vraiment où tu sais, l'étudiant arrive, on l'analyse, tu sais, je vois ça, on analyse, on sait tout, puis on adapte la scénarisation. Est-ce que c'est ça? Comment ça fonctionne tout ça? Est-ce que c'est possible?
Moi, comme le net, mon objectif global comme prof, là, c'est que mes étudiants soient en immersion. En anglais, ils disent du flow. Ça oui. vient de l'informatique et des jeux vidéo. Mais mm-hmm. pour moi, un cours n'est pas nécessairement un jeu vidéo. On peut s'inspirer des mécanismes des jeux vidéo, mais l'objectif, il est pas nécessairement d'atteindre le meilleur score. Moi, je veux qu'ils arrivent à développer des compétences. Pour ça, par contre, ce que on voit beaucoup en scénarisation pédagogique, c'est de partir des connaissances antérieures des étudiants, les amener à développer des nouvelles compétences en les appliquant et aller vers faire du transfert. Clairement, mm-hmm. ça fonctionne. Mais des fois, même moi, quand j'arrive, je dis, ouais, mon cours là, il est bien, vraiment bien monté, là, mais il est plate. Il est vraiment plate, ok. Mm-hmm. Et j'arrive pas à créer une expérience ou une situation qui va permettre à mes étudiants vraiment d'être en immersion totale, de dire, à un moment donné, il oublie, là. Ah, mon cours dure 3 heures. Ah, il oublie qu'il est rendu 3h15 puis qu'il continue à travailler. Il voudrait y arriver. Il aimerait ça. Je suis toujours fier de voir qu'ils sont tellement investis dans des activités qu'ils oublient de prendre une pause parce qu'ils veulent participer. Donc, ben ça, c'est peut-être une indication que mon cours sert à quelque chose. Parce que quand ils sont occupés, puis moi, en avant de la classe ou en avant de mon écran actuellement, les étudiants sont en action. Ce que ça m'indique, c'est qu'ils savent ce qu'il y a à faire, ils savent pourquoi qu'ils le font, et ils savent comment le faire.
Oui.
Tout ça, ben, on crée une expérience d'apprentissage qui va leur permettre d'apprendre et dans les meilleures conditions. Mm-hmm. Pour y arriver, ben faut arriver à scénariser. La base de la scénarisation, c'est qu'il y a un début, il y a un milieu qui vient une fin. Mais faut arriver également à ce que il y aille un petit peu de comme une montagne russe, qu'on rende ça intéressant, puis que on puisse démontrer ce volet de scénarisation là ou ce volet de d'expérience satisfaisante. Pour ça, ben moi ce que je vois, c'est dans le fond, d'essayer de voir à chaque cours que je scénarise ou que je crée, j'essaye d'avoir cette petite montagne russe-là qui est très présente dans le volet d'expérience et dire, ben comment je peux me mettre à la place de l'étudiant qui débute, qui a ses connaissances, et qu'à la fin, où est-ce que moi je veux l'emmener? Faut toujours que j'aille l'objectif d'apprentissage en tête et me dire, ben pourquoi je leur fais faire ça? Ah oui, parce que je suis capable de le rattacher. Si je suis pas capable de le rattacher, je suis pas en train de créer une expérience dans ma tête.
Donc,
c'est vraiment de proposer quelque chose qui va me permettre de comprendre quels sont leurs besoins d'apprentissage, quels sont les objectifs pédagogiques, et à travers ça, proposer un parcours d'apprentissage qui va leur permettre de vivre des activités qui vont leur permettre de développer des compétences.
Donc, en fait, c'est ça, ce qui est intéressant, c'est que je dirais qu'il y a même une approche, je dirais, empathique de la manière dont le cours va être scénarisé. Tu sais, de se mettre à la place d'eux, c'est une expression que t'as utilisée plusieurs fois pour comprendre, en fait, comment toi, en tant qu'enseignant, tu vas pouvoir l'emmener justement à valider cet objectif d'apprentissage. C'est vraiment très très intéressant. Et est-ce que aujourd'hui on peut dire que c'est comme ça qu'on que va être perçu on va dire l'enseignement? Est-ce que c'est comme ça au mieux? Est-ce que déjà ça s'adapte à toutes les disciplines? Parce que ça, je le comprends très bien. Tu sais, par exemple, j'enseignais aussi les langues. Et il y avait beaucoup ces actions de ce qu'on appelait l'apprentissage par les tâches, où on mettait vraiment l'étudiant dans une situation d'une vie de tous les jours, puis il était amené justement à vivre cette situation pour pouvoir valider, en fait, son objectif d'apprentissage. Tu sais, ça pouvait être, je suis à l'hôpital, je remplis un formulaire et puis je dois expliquer pourquoi je me suis fait mal ou quelque chose comme ça. Et en fait, c'est effectivement, ça mettait l'étudiant dans une situation qu'il pouvait complètement vivre. Et puis au début, on se disait que c'était facile parce que on disait oh, mais on va faire une tâche comme ça, mais il fallait vraiment réfléchir à est-ce que la tâche existe, est-ce que c'est une tâche de la vie de tous les jours, etc. Mais est-ce que le design d'expérience d'apprentissage peut s'adapter à toutes les disciplines du cégep? Tu sais, il y a, en mathématiques, par exemple, est-ce que, tu sais, des choses où des fois des enseignants vont dire, ouais, mais là, il n'y a pas, c'est comme je dis à mon fils, les tables de multiplication, bah, t'as pas le choix, tu les apprends par cœur. Tu les apprends, faut apprendre par cœur ou ce genre de choses. Je vais pas réduire ça, on parle de cégep, bien sûr, et d'enseignement supérieur, mais il y a des choses, on peut pas passer à côté. Comment ça se passe? Est-ce qu'on se dit que c'est quelque chose qui s'adapte à toutes les disciplines, puis on essaie de se creuser la tête et trouver des moyens de faire en sorte à avoir justement une expérience d'apprendre les mathématiques de manière appliquée, plus que de manière théorique et systématique? Je sais pas.
Ben, je pense que ça dépend du type de contenu, du type de connaissances qu'on va avoir ou de compétences qu'on va avoir à développer. Je suis pas prof de maths, donc je me sens très mal à l'aise de répondre.
Je te donnais un exemple comme ça, mais
c'est l'idée de dire, si je fais le parallèle avec l'histoire de la géographie ou l'intégration multimédia qu'on est en train de développer, ben dans tous les cas, il y a de la théorie. Ouais. La théorie, je dirais, ça c'est le côté facile et rassurant pour le prof, parce que on peut vraiment lui donner un début, un milieu, une fin, avoir un climax, avoir générer une histoire qui va être intéressante. Donc, en histoire, si je prends l'exemple, ben on avait beaucoup de profs qui étaient des raconteurs, des storytellers, parce que on racontait l'histoire. Quand on l'amenait en compétences, là, c'est pas toujours facile d'y arriver, à avoir une tâche, dire, ben partir des besoins des utilisateurs puis les amener vers les objectifs qu'on veut atteindre. Des fois, il y a des glitches, puis il va falloir les ajuster. En intégration multimédia, on a le même problème. On a le logiciel, que ça soit n'importe lequel. Nous, on est beaucoup dans Suite Adobe, là. Donc, n'importe quel logiciel d'Adobe, que ça soit Photoshop, Illustrator, After Effects, Premiere, XD, en design d'interface, ben, on a le logiciel à apprendre. Mais le logiciel, c'est un peu plate à apprendre tout seul. Donc, si on veut créer une expérience, moi, les étudiants, et Adobe l'a bien compris là, dans ces types de formations qu'ils développent, ben si on propose un défi en disant, bon, voici un défi contextualisé dans le domaine. Je prends l'exemple, cette année, moi, ils ont à développer un site web et de développer l'ensemble de l'interface. OK. Les sites web, ils en font, ils ont fait du HTML, ils en ont fait en code, on les a fait travailler dans InDesign un peu dans cette logique-là, mais si on est capable de les amener un petit peu plus loin en proposant un défi qui va leur parler. Donc, pour ça, on a été chercher un client réel qui, au lieu d'avoir juste des besoins fictifs, mais là, ils ont besoin de proposer à un client réel une interface. Pour ça, ils ont eu besoin de comprendre les besoins. Et moi, je sais que dans le fond, pour les étudiants à base, ils ont travaillé beaucoup en fiction, en simulation, mais pas en réalité, dans le fond, que là, ils vont devoir livrer un produit final à un client et que ils botcheront pas le français, mettons, parce que ben ça s'en va juste au prof. Donc, ouais. Ici, on est capable de les amener en disant, bon, mais j'ai peur de où? Ils ont jamais fait de lien avec des clients réels, ça les a stressés. Il y en a qui m'ont écrit 2-3 jours avant en disant, je suis pas prête, je pourrais pas être là, je vais être malade, je suis trop anxieux par rapport à rencontrer un client. Je dis, wow, OK, on relaxe. Mais ça fait partie de l'apprentissage.
C'est ça.
Et cette expérience-là les amène à avoir un but final, de dire, oui, OK, je comprends. Sur le marché du travail, là, j'en aurai pas juste un client, on sera pas 30 à le rencontrer, je vais être tout seul.
Ouais.
Et c'est cette expérience-là qu'on est capable de moduler pour dire, OK, on va essayer que ça soit le plus authentique possible, mais on va essayer de partir de leurs attentes, de leurs besoins, pour essayer que ça soit le plus propice à l'apprentissage pour eux.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Et justement, ben par rapport au UX en éducation et le design d'expérience d'apprentissage, on en est où actuellement au Québec? On en est où actuellement? Puis la question que j'aurais, c'est comment tu vois ça dans un futur proche et même en allant plus loin? Donc c'est une question qui est assez large, comme si je te posais 3 questions en une. Mais c'est ça, j'aimerais savoir où est-ce qu'on en est. Est-ce que c'est quelque chose qui émerge? Est-ce que c'est quelque chose dont de plus en plus d'enseignants ont conscience? Est-ce que c'est quelque chose qui s'inscrit et qui va s'inscrire selon toi, hein, tu sais, on est vraiment dans la perception, mais dans la longue durée, dans le cadre de l'enseignement supérieur puis au cégep?
Ben, on commence à entendre parler de l'expérience d'auteur et de voir l'impact que ça peut avoir en enseignement puis en apprentissage. Je pense, dans un premier temps, c'est de comprendre nos utilisateurs, nos étudiants. Ils arrivent de où? Ils ont quoi comme bagage au secondaire? Où est-ce qu'on veut les amener? Donc, il y a beaucoup de cégeps qui ont commencé, il y a beaucoup de programmes qui ont commencé à se doter de profils de sortie. À la fin, voici notre étudiant sera capable de, au terme de la formation, ils seront en mesure d'avoir ces compétences-là dans un contexte donné. Ça, c'en est une intégration de l'expérience. Vous dites, voici, on va orienter la formation sur les besoins des utilisateurs finaux. On a commencé à avoir des tableaux de bord, des programmes. Il y a quelques cégeps, par exemple Dawson, là, qui ont développé des outils en lien avec ça, mais avoir une vue réelle qui vient avec l'analyse de l'apprentissage que dans les dernières années, on a vu poindre là, davantage, dire, ben, à partir des données qu'on a déjà, on est peut-être capable de mieux orienter notre pratique en lien avec la réussite des étudiants. Et tout le volet d'empathie, ben, se placer à la place de nos étudiants. Moi, j'avais même commencé à la fin à créer des personas par utilisateur, donc un portrait type. C'est qui l'étudiant qui rentre en première année? Nous, c'est un programme technique de 3 ans. Donc, c'est qui l'étudiant en première année? Il vient d'où? C'est quoi ses forces? C'est quoi ses attentes? C'est quoi ses intérêts? OK. Ben, nous autres, en intégration multimédia, ils viennent souvent du secondaire ou ils ont été dans un autre programme avant. On a quand même beaucoup de population B, mais qui ne savaient pas trop, qui sont intéressés par les jeux vidéo parce que gaming, ils font ça pas mal.
Oui, c'est ça.
En deuxième année, ils se rendent compte que, OK, il y a peut-être plus que le jeu vidéo, puis que nous, notre programme est vraiment orienté quand on l'a construit, parce que j'ai participé à l'élaboration du programme, ben avec les deux enseignants, moi et Jonathan, d'autres enseignants, on a vraiment réfléchi à c'est quoi les besoins de la région. Donc, au lieu d'aller vendre des jeux vidéo dans la Nadière, c'est plate, mais il n'y a pas tant de jeux vidéo, là. Par contre, on a beaucoup de PME qui ont besoin de créativité numérique et de production multimédia. Donc, on a orienté le programme dans cette logique-là. Nos étudiants qui rentrent, ils se rendent compte de l'univers de la créativité numérique, qu'on peut faire vraiment, OK, tu avais un intérêt, mais là, on va développer pour aller plus loin. Et là, on le voit déjà avec nos deuxièmes années et demie, là, que là, ils commencent à se stresser pour leur intégration sur le marché du travail. Donc, les besoins de nos étudiants, c'est de dire, ben, OK, on va les préparer adéquatement à s'intégrer tranquillement sur le marché du travail, au stage. Ce qui fait que on a comme un parcours utilisateur vraiment de dire où est-ce qu'on s'en va, c'est quoi les personas. On le fait quand, comme conseil pédagogique, on le fait également pour technique d'éducation à l'enfance. Qui sont les étudiantes majoritairement là, qui font partie du programme, qui sont intéressées, puis quels sont leurs besoins à chaque étape de leur parcours scolaire. Il y a une phrase que je dis beaucoup, là, parce que dans les cégeps, c'est on entend beaucoup que l'étudiant est au cœur de
priorité. Oui, c'est ça. Placer l'étudiant au centre.
C'est ça, de ses apprentissages, mais oui, l'étudiant, c'est plus important. Mais on oublie le deuxième morceau qui est toujours « oui, mais tant que ça touche pas à la tâche enseignante ». Parce que on a bien beau vouloir adapter tout ce contenu à l'étudiant, ben si ça touche à notre tâche comme prof, aux ressources que le cégep a, il y a une limite.
Mais oui.
On va pouvoir appliquer. Donc, il faut prendre en compte ces besoins-là, mais réfléchir toujours au contexte pédagogique. Donc, les ressources qui sont disponibles, les objectifs d'apprentissage, ben oui, je peux personnaliser, mais jusqu'à un certain moment. Là, il y a un volet, je suis pas en divertissement. Je suis pas Netflix qui peut personnaliser puis développer du contenu sur les préférences des utilisateurs. Nous, les préférences, surtout en technique, c'est les attentes du marché du travail.
C'est ça.
En pré-universitaire, les attentes du milieu universitaire. Et là, ben, faut se coller là-dessus. Et c'est pas tout le temps que ça va être le fun, l'expérience. Mais on va essayer de tendre vers une expérience qui va être le plus authentique et représentative du marché du travail et qui va être quand même un petit peu satisfaisante pour amener l'étudiant à progresser puis à apprendre. Un des volets qui peut faire peur en UX, c'est de justement partir des besoins puis des attentes des utilisateurs, et pour ça, faut les questionner.
C'est ça.
Faut avoir leur input. L'évaluation en éducation est pas... L'évaluation des apprentissages est bien vue, mais l'évaluation des enseignements est pas toujours bien accueilli, mais il y a moyen, en prenant une auto-évaluation, d'aller chercher l'input, donc la rétroaction des étudiants, en partant de ça, d'adapter nos cours ou nos contenus pour vraiment s'assurer qu'on est sur la bonne voie avec les objectifs qu'on s'est donnés et que nos étudiants, envers les compétences qu'ils ont développées. Eh ben, cette évaluation-là, c'est une prise de mesure sur la compréhension des étudiants, mais aussi leurs besoins, qui vont nous permettre de proposer des cours qui vont être plus adaptés à la fois à notre profil de sortie que à nos étudiants qui sont dans la classe maintenant.
D'accord. Donc, si tu devais, toi, conseiller, en tout cas, tiens, un enseignant qui écoute là ce podcast, puis qui se dit franchement, c'est super intéressant, puis j'ai vraiment envie de m'intégrer dans ce processus, en fait, de développer, tu sais, de faire de mon cours le développement d'une expérience d'apprentissage. Selon toi, ce serait vraiment le questionnement, puis de comprendre au mieux quels sont les besoins, non seulement de l'étudiant, mais aussi du après. C'est-à-dire que, parce que c'est ça, je comprends que dans les parcours que vous donniez, l'étudiant, lui, il arrive, c'est sûr qu'il a des besoins, parce que tu disais, il arrive en première année, l'étudiant d'un persona type, lui, il arrive, c'est un gamer, il se dit, ah, c'est cool, je vais faire ça parce que j'aime vraiment beaucoup. Mais je comprends aussi que c'est à plusieurs niveaux, là, cette expérience d'apprentissage, parce que non seulement il apprend, mais il découvre aussi la pluralité des opportunités qu'il peut avoir sur le marché. Mais ça vous demande, vous aussi, en tant qu'enseignant, de savoir ce qu'il y a sur le marché. Donc, on parle effectivement de connaître les besoins, mais de connaître aussi les besoins de la réalité du marché du travail pour pouvoir, en fait, mettre tout ça dans une scénarisation qui va suivre, qui va pouvoir développer en fait des expériences authentiques et permettre à l'étudiant de pouvoir trouver du travail facilement puis d'être bon dans ce qu'il fait. C'est bien ça. Ouais,
exact, parce que là on a parlé de la partie romantique là, du UX.
Ouais, hein? C'est ça.
Parce que tu sais, développer une expérience, c'est tous des beaux mots qui veulent.
Ça fait roller coaster, tu sais, je vais arriver c'est à la ça. Ronde et.
Donc ça a l'air beau et amusant, là. Mais travailler en UX, là, c'est quoi? C'est d'analyser des données, de questionner nos utilisateurs, donc développer des bonnes questions qui vont nous permettre de d'obtenir l'information qu'on a besoin, d'analyser des documents ou des études qui vont nous permettre d'avoir la bonne indication. À partir de ça, déterminer des objectifs et par la suite, arriver à faire le même principe avec nos étudiants qui sont finissants. Nous, on est un nouveau programme, donc on n'a pas encore de finissants, mais ça va venir, on va pouvoir les questionner. Il va faut questionner souvent par l'entremise des stages, mais on a une possibilité de valider que on répond aux attentes du marché du travail. Donc, tout ça, ben c'est de l'analyse de données et c'est de faire parler ces données-là. Ouais. Donc, c'est d'essayer d'aller chercher, de questionner ou d'analyser d'informations pour nous permettre de vraiment essayer de démêler tout ça puis de se donner un objectif ou d'adapter l'objectif. Quand je disais que nous, on a une gang de gamers, ben quand on les prépare au marché du travail, on sait que le volet social, c'est pas nécessairement une force pour tous les étudiants. Mm-hmm. Et ça peut même être anxiogène parce que sont habitués d'être un petit peu plus, pas tous, non? Je veux pas généraliser, mais isolés ou c'est plus un défi pour eux. Donc, tout le volet de socialisation, d'empathie justement et tout, on est en train de développer pour permettre à nos étudiants de bien s'intégrer sur le marché du travail. Mm-hmm. Donc, c'est là que l'empathie, la compréhension, mais toute l'approche, dans le fond, centrée sur l'utilisateur ou centrée sur l'humain ou centrée sur l'étudiant dans notre cas, c'est d'essayer de mettre en place des conditions de réussite et d'apprentissage qui vont leur permettre d'aller plus loin, plus rapidement et d'atteindre les objectifs qu'on va avoir établis.
D'accord. Donc, petite dernière question. Ça, tu le vois, en tout cas, en termes de prédiction, mais vraiment, parce que tu sais, c'est quand même assez disruptif de, en fait, quand tu dis, ben oui, ben c'est comme ça qu'il faut penser, mais quand tu connais l'éducation telle qu'elle est, puis, ben, les différentes étapes par où elle est passée, tu sais, il y a toujours eu des, en fait, je dirais, phénomènes de mode, mais sans vouloir réduire le fait que, c'est un domaine où on est toujours en perpétuelle réflexion de comment on va aider au mieux les étudiants. Tu le vois comment? Parce que là, je vois vraiment, ça me fait un peu peur en même temps, ce fait, l'expérience, le design d'expérience d'apprentissage, parce que je me dis, mais est-ce qu'on va arriver vraiment à un moment où l'étudiant va pouvoir ou va choisir à la carte les différentes compétences qui vont l'amener à pouvoir développer en fait sa profession dans le marché du travail. Est-ce que tu vois, on parle de discipline, mais tu sais, dans ton expérience, si je sais par exemple que moi, tu sais, j'arrive dans ton programme qui est un programme de médiatisation, enfin pas de médiatisation, excuse-moi,
multimédia, ouais.
Multimédia, c'est ça, un programme multimédia, tu sais, j'arrive et je sais que il y a tel ou tel programme qui va m'apporter, en fait, tu sais, je suis sûre qu'avec ce programme, vous allez avoir des finissants, je suis sûre qu'avec ce programme, je vais pouvoir accéder à tel poste ou aller à tel endroit. Est-ce que, tu sais, c'est pas quelque chose qui va faire peut-être disparaître une sorte d'équilibre qu'on a, tu sais, de discipline, puis d'arriver à des programmes très traditionnels où on est amené à emmener un groupe d'étudiants vers différents domaines. Puis comment tu vois ça, en fait, le UX, mais la place du UX dans l'éducation à long terme?
Ben, si je prends l'exemple, j'enseignais en histoire, mais j'avais beaucoup plus d'intérêt en géographie. Et la géographie, c'est une discipline qu'on dit carrefour, parce que il y a de l'histoire, il y a de la politique, il y a de la science,
de la
socio, il y a un petit peu de tout, non? Et ben c'est l'amalgame de ça qui fait qu'on est capable de comprendre où est-ce qu'on davantage la géographie, et surtout en géographie humaine, là c'est encore pire, hein, parce que toutes les disciplines plus de sciences humaines rentrent à l'intérieur. Mm-hmm. Ben en éducation, pour moi, je le rappelle, là, l'étudiant ne s'inscrit pas dans une discipline. Moi, là, je tripe bien raide sur le design d'interface. Là. Mais ouais. Je sais que mes étudiants, il y en a qui aiment pas ça, mais qui sont inscrits dans un programme. Ils ne se sont pas inscrits dans un cours. Donc, les disciplines, préuniversitaires, c'est un petit peu plus clair quelles sont les disciplines. Dans les programmes techniques, on a des disciplines, mais qui sont plus intangibles, là. Donc, mm-hmm. si tu prends, mettons, administration, on a marketing, on a comptabilité, on a management, on a RH, ben tout ça fait que dans chacun des programmes, on a différentes disciplines qui doivent travailler ensemble pour amener l'étudiant à développer cette à la fois cette spécialisation-là, mais cette polyvalence pour être en mesure de se trouver une job sur le marché du travail. Parce que déjà, mes étudiants qui sont en deuxième année me regardent et disent « Ben Jean-Luc, qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine? Il y a trop de choix. » Et c'est comme quand j'arrive sur Netflix ou Disney+, qu'est-ce que j'écoute aujourd'hui? Il y a trop de choix. Je me concentre sur quoi là-dedans? Donc, il va falloir aider. Et c'est là, le UX, là, le côté mauvais du UX, c'est qu'ils comprennent un petit peu mieux, comme, un petit peu trop comment notre cerveau fonctionne, puis ils développent des applications en lien avec ça. Là. Les réseaux sociaux, c'est pas pour rien qu'on a des dépendances aux réseaux sociaux. C'est pour ces raisons-là, on a mis beaucoup de gens qui cherchent à maintenir...
Oui, ça vient nous chercher directement, tu sais, ça, parce exactement ce qu'on cherche, ce qu'on peut.
Ils ont compris notre machine interne là, pour dire qu'est-ce qui nous attire. Pour nos étudiants avec les disciplines, ben ça va être d'arriver à démontrer comment notre discipline peut contribuer au développement de l'étudiant. Et ben la spécialisation, de plus en plus, ben on a besoin de... Il y a comme un, on revient
une
toujours au même
débat. Une transdisciplinarité, c'est ça, une.
Oui, mais il y a toujours un débat, là. Est-ce qu'on doit être plus, qu'est-ce qui est mieux? Être plus spécialisé ou plus polyvalent? Pour moi, il n'y a pas de réponse, là. Donc, la polyvalence est bonne, la spécialisation est bonne aussi. Si tu sais tout faire un peu, mais pas bien, c'est pas mieux. Si t'es trop spécialisé dans un sujet, c'est pas mieux si c'est pas si tu prends pas intérêt à ce qui se passe autour. Donc faut jouer là, à partir de ça. Et je te dirais, ben il y a le NN Group qui est un Nielsen et un Norman Group en UX qui permet d'avoir cette vision là justement en disant ben nous on travaille en UX et ils réfléchissent en disant, ben OK, mettons, pour une interface, ça ressemblerait à ça. Mais pour les besoins de tel type de sous-appareil, peu importe le contexte, on est capable de
l'adapter. Comment tu l'as nommé? Comment
donc,
tu...
c'est le NN comme
groupe. OK, je vais ajouter ça dans le...
Puis tu vois, moi, ce que j'essaie depuis les dernières années, j'avais commencé, quand j'étais conseiller pédagogique, à prendre un congé sans solde, un PVRTT, là, donc une journée semaine pour me permettre de faire d'autres projets. Donc oui, j'ai fait du ski pendant l'hiver, mais les restes des 10 semaines qu'il y a du ski à peu près, là, un petit peu plus, j'exagère, là, mais ben je me suis concentré à développer mon laboratoire d'idées pour essayer de réfléchir à ces éléments-là. Puis c'est par l'entremise de vecteurs et leviers, justement, mon laboratoire d'idées que j'arrive à réfléchir sur ben comment on peut intégrer ça au développement de formation, au développement de cours. Donc oui, ça touche l'éducation, mais ça touche également la formation en entreprise.
La formation, oui.
Et la formation globale pour dire ben comment je peux arriver à répondre aux besoins des utilisateurs. Et je le vois justement dans les organisations avec lesquelles je travaille pour développer des formations. Ben si tu veux pas que ton projet se plante, t'es mieux de partir des besoins des utilisateurs pour te permettre d'atteindre tes objectifs.
OK. Donc là, si on veut aller jeter un coup d'œil à ce laboratoire d'idées, c'est vecteurs et leviers.
Vecteurslevier.com.
.com, je l'ajouterai dans la documentation.
Donc,
de
des S, des deux.
Balado.
Puis, je dirais, là, c'est ma plug plate, là. Mais la dernière référence que je dirais, si vous voulez vraiment comprendre le UX, là c'est le prof d'histoire qui parle, ben tout ce qui est en lien avec la réforme Parent des années 60 et le livre blanc sur l'éducation est assez déstabilisant. Donc, quand tu disais, ben là, ça a l'air de changer et de bouger, mais retournez aux sources premières, aux textes fondateurs des cégeps, et de comprendre à l'intérieur quelle était la vision en 1960 lors de la création des cégeps, ça nous permet, avec une relecture, avec notre compréhension actuelle de nos réalités, d'arriver à peut-être voir des pistes dans les structures qu'on a actuellement au Québec qui va nous permettre, avec les structures en place dans les cégeps, de partir de ça pour répondre à nos objectifs conscients.
Ouais, moi je pense vraiment que dans les années 60, les gars étaient quand même visionnaires, parce que tu sais, je suis française, puis j'ai toujours apprécié, et je trouve en fait que les cégeps, c'est un secteur de l'enseignement supérieur qui est formidable justement dans le développement des compétences et dans l'accompagnement à la professionnalisation et au milieu du travail. Donc c'est sûr que merci pour la référence, parce que tu sais, c'est quand même épatant de savoir que ça commence à s'enligner sur des idées, tu sais, au niveau de la fondation des cégeps qui apparaissaient déjà dans les années 60. Donc c'est sûr que je pense que les auditeurs vont être super contents de pouvoir aller voir ça sur ces sites.
C'est une belle lecture, justement, disruptive. Si vous êtes déstabilisé, oui, ça peut être quelque chose d'intéressant de dire, OK, ben, on n'a pas fait tant que ça de chemin, en fin de compte, à partir de l'idée originale.
C'est sûr. Ben, c'est bien, c'est un début. Il y a un début. Un bon, comme, on est dans le, je pense qu'on est dans, on s'enligne bien. Ça commence.
Tranquillement, on va y arriver.
Sûrement, c'est ça. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup, Jean-Luc, pour cet échange sur le design d'expérience d'apprentissage. Je pense qu'on pourrait continuer pendant longtemps. Moi, je suis curieux. J'ai envie d'aller voir dans ton laboratoire d'idées là, vecteur et levier. Tu as parlé du NN Group, UX, toutes ces choses-là. Je vais pouvoir les mettre dans la documentation du balado. Et puis, ben, j'espère qu'on va pouvoir échanger encore plus amplement sur le design.
Ben, je suis certain que dans les prochaines années, ça va se développer, là, parce qu'on commence à avoir de plus en plus de connaissances en UX, puis surtout dans le design d'interface, qui est quand même une nouvelle discipline. Là. Le UX est quand encore jeune, puis j'ai pas la prétention de dire que je suis un expert en UX encore, là, donc un petit peu... Je suis polyvalent, donc je suis bon dans...
Oui, c'est ça.
Expert dans rien, là. Mais c'est là de dire, ben, ça vaut la peine de s'intéresser au fonctionnement du UX et aux principes en arrière, puis de faire le transfert vers l'éducation, parce qu'on peut se retrouver assez facilement dans le contexte. Donc, il y a quelque chose pour nos étudiants aussi.
Merci beaucoup, Jean-Luc.
Ben, merci à toi.
Une bonne semaine, et puis à très bientôt.
Excellent. Ben, merci encore. Merci. Puis, n'hésite pas, ou les auditeurs, s'il y a quoi que ce soit, écrivez-moi, ça me fait plaisir.
OK, super.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.